Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Nous continuons nos visites et nos rencontres autour de l'Amorque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, et l'URCI, l'université, comment on dit, tiens, l'URCI ?
Rose-Croix internationale.
Rose-Croix internationale. Et le monsieur que vous entendez, c'est mon invité du jour, c'est Philippe Sicard, qui est conférencier pour les deux, l'Amorque et l'URCI. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ben oui, merci.
Ah bon, ben c'est la...
Et vous ?
Pour ce qu'on demande. Ben écoutez, ça va, on est un peu froid là, mais ça va. Tant qu'on passe entre les gouttes de postillons contaminés, ça va. Dites-moi, j'ai marqué comme sujet de notre discussion, Dieu, deux points, l'évolution d'un concept. Alors là, on s'attaque à un énorme morceau. Dieu, est-ce que la morgue a une définition d'ailleurs de ce qu'on appelle Dieu ? Pour pas qu'on se mélange les pinceaux.
Pas plus la morgue que... Tous ceux qui nous ont précédés ne définit qui est Dieu, parce que c'est une notion qui est propre à chacun. Et l'homme a évolué dans sa conception de ce qu'est Dieu ou de qui est Dieu au fil des siècles. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, l'ordre de la Rose-Croix mentionne Dieu de notre cœur, Dieu de notre compréhension, parce que chacun a sa propre perception. Même si on définit des courants de pensée qui peuvent être similaires, au fond de chacun d'entre nous, il y a une perception du divin et de ce que l'on entend par le terme Dieu qui est personnel à chacun d'entre nous.
D'accord, qui est extrêmement repris par la religion. Dès qu'on parle de Dieu, on se fait un peu traiter de secte, de religieux, de catholique, de protestant. En fait, ça c'est un peu compliqué.
Pour ne pas aborder de sujet qui fâche, on va simplement dire que la religion est un chemin, mais une voie initiatique en est encore un autre, qui conduit donc depuis l'idéal qui est en chacun vers la perfection absolue. Donc il y a une aspiration au fond de chaque être humain, et cette aspiration le conduit progressivement vers cet idéal qui va être, chez l'homme primitif, la crainte des éléments, plus tard la déification des animaux à cause de leur puissance qui est supérieure à celle de l'homme. Puis ensuite, on va arriver à une vision ou une perception anthropomorphe de Dieu, jusqu'à ce qu'on conçoive Dieu comme une pensée ou une intelligence supérieure. Et donc, dans ce cheminement, il y a plusieurs supports, que sont les grandes religions, et comme je disais à l'instant, les voies initiatiques aussi. Mais la voie initiatique, c'est le parcours intérieur, et la religion, c'est le parcours extérieur, le parcours public, le parcours le plus général. L'idéal, Dieu, est au-delà de la religion. Si vous prenez le TGV pour aller d'Avignon jusqu'à Paris, le TGV n'a rien à voir avec l'objectif qui vous a amené à aller à Paris.
Et Dieu, ça serait
si
Paris,
je prends
donc.
Cet exemple. Donc, Dieu est l'objectif à atteindre. Il est à la fois le point de départ en tant qu'origine de toute chose, mais il est aussi la fin de toute chose.
Alors, ce qu'on a du mal à comprendre aussi, c'est qu'au fil des siècles, tous les dictateurs, tous les méchants ont utilisé Dieu, que ce soit même l'Inquisition catholique, Hitler, même les États-Unis sur leur dollar, In God We Trust, on croit en Dieu alors que c'est de l'argent et que ça n'a pas vraiment de rapport. Comment vous expliquez ça ? Ça n'a pas de rapport avec le Dieu dont vous nous parlez là ?
Non, mais la nature humaine est très cupide, et donc quelqu'un qui veut s'arroger un pouvoir utilise le support qui lui paraît le plus approprié. Ce n'est pas la faute de Dieu si l'homme a ce comportement cupide. Je pense à une collègue qui me disait que si Dieu existait, le monde serait meilleur. Mais quand il y a un incendie à la Sainte-Victoire ou à Vitrolles ou ailleurs, c'est un homme qui met le feu, ce n'est quand même pas Dieu. Donc il y a une... Il y a un amalgame un peu facile et qui permet d'éviter de trop réfléchir.
Oui, puis il y a un amalgame aussi, on le voit dans l'horreur en ce moment, avec des terroristes qui, au nom de Dieu, font des meurtres et des dizaines de morts, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Là aussi, on est encore dans une interprétation personnelle, mais on l'a subi quand même.
Oui, mais j'ai du mal à comprendre que des dirigeants, disons, religieux, puisse encourager la destruction d'une œuvre du créateur. Si vous êtes par exemple fanatique de Picasso, vous n'aurez surtout pas envie de détruire une œuvre de Picasso. Et donc comment on peut dire qu'on
on a déjà vu,
Dieu,
on
qu'on a adore déjà Dieu vu, on a et accepté de détruire les œuvres du Créateur.
Ah oui, sinon on a déjà vu des catholiques un peu intégristes détruire le Piste-Christ à Avignon, qui était une œuvre d'art qui a déplu.
Oui, mais ça existe partout. Vous avez eu des musulmans qui ont détruit des statues de Bouddha au Proche-Orient.
Oui.
Et donc, il faut bien voir que la religion est une structure qui est liée au monde temporel. Tout ce qui est lié à la dimension physique vit une étape d'abord de naissance, de croissance, d'apogée, de déclin et de mort. Donc, toutes les religions sont passées par l'équivalent de l'Inquisition. Seulement, elles n'ont pas démarré au même moment. Il y a 600 ans d'écart entre le début du christianisme et le début de l'islam. Donc, il y a 632 ans même, et donc, si on se base sur l'Égypte. Et donc, il y a obligatoirement un phénomène qui se produit avec un certain décalage. Maintenant, on va supposer quand même que les prises de conscience sont plus rapides, que la circulation d'informations et j'espère, le raisonnement, ça va atteindre davantage les gens et les amener à se poser les vraies questions et faire sortir l'humanité tout entière de ces phases de crise qui ont duré plusieurs siècles dans les civilisations, entre guillemets, ou les sociétés précédentes.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand on vous dit Dieu, vous partez en courant, quoi. Donc ça nuit quand même à ce concept en pleine évolution.
On a peur d'un terme qui est bien pratique et qui a le mérite d'exister et qui existe partout. C'est-à-dire que qu'on l'appelle Allah ou qu'on l'appelle Dieus en Inde ou qu'on l'appelle Théos, peu importe, tout le monde a eu besoin de définir ce créateur et cet idéal de perfection. Donc ce mot existe, pourquoi en avoir peur? On en a peur parce qu'il y a eu une récupération par des dirigeants religieux. Même les religions, elles sont basées sur des grandes philosophies qui ont le mérite d'exister et qui ont apporté, c'est une étape bien sûr, c'est pas une fin en soi, mais elles ont apporté chacune beaucoup à l'évolution de l'humanité. Il ne faut pas le renier, mais il faut accepter de tourner la page. Vous grimpez plusieurs étages, vous passez par des paliers, et donc vous ne regardez pas forcément en arrière, vous continuez à cheminer et vous savez très bien qu'il y aura encore d'autres paliers à franchir jusqu'à ce que vous soyez arrivé au sommet. Et donc il faut accepter que, on va prendre une autre image, que l'idéal c'est le centre d'un cercle, un soleil par exemple, et puis chaque religion c'est un rayon. Bien, vous avez des rayons qui sont plus courts que d'autres qui sont très, très longs, et vous avez un rayonnement différent de chaque courant religieux qui est assimilable à un de ces rayons. Mais moi, je n'ai jamais vu d'alpiniste se battre simplement parce qu'il y en avait un qui était passé par une voie ouest et l'autre qui était passé par une voie sud. Je n'ai jamais vu des concurrents du Vendée Globe se battre parce qu'ils n'ont pas pris la même orientation pour éviter certains courants, certains orages, certaines tempêtes, etc. À l'arrivée, ils sont tous fiers d'avoir réussi.
D'accord.
Et puis, dans la démarche religieuse, hélas, c'est différent, alors que c'est tout à fait assimilable. Ce sont des voies différentes vers un idéal. Et si on parle de Dieu, il faut dépasser la discussion sur la religion.
Ce que j'allais dire, c'est que...
La religion nous ramène à l'homme,
c'est que...
alors qu'elle est censée relier l'homme à Dieu.
Je peux vous poser une question ? Vous ne m'entendez pas parce que j'essaie d'intervenir, mais du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. C'est que, bah justement, là, on a mis comme titre l'évolution d'un concept. Donc, si on a bien compris au départ que c'est un concept créateur, c'est ça, hein, une intelligence puissante qui crée l'univers, qui crée les forces et les lois qui nous maintiennent debout, en vie, etc. Qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'on sait ça?
Non, mais alors... On va repartir d'un petit peu plus loin. Dans tous les courants religieux, il y a une dimension ésotérique et une dimension exotérique. On est en général chrétien, juif, musulman, et on décide un jour ou l'autre, dans le courant de sa vie, plus ou moins tôt, tout ça c'est très personnel, on décide de faire un cheminement différent. Ce cheminement plus intérieur est représenté par l'étude de la Kabbale dans le judaïsme, est représenté par le soufisme dans l'islam, est représenté par le gnosticisme dans le christianisme, et vous avez cette dualité dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Tous les courants religieux ont ces deux dimensions. Donc, Vous pouvez cheminer dans la première dimension ésotérique, on va dire tout simplement aller à la messe tous les dimanches ou respecter les piliers de l'islam, etc. Et vous pouvez vous en contenter toute votre vie. Mais vous pouvez aussi décider de tout abandonner, ça, sur un plan psychologique, je veux dire, et sur un plan donc mystique, intérieur, ça ne veut pas dire rejeter tout en bloc, rejeter sa famille, rejeter tout, sa vie professionnelle, etc. Ça ne veut pas dire du tout ça. Mais vous pouvez accepter ou décider de franchir un pas supplémentaire et de vivre cette dimension intérieure qui est basée sur une démonstration. C'est-à-dire que vous devez faire l'expérience de ce qu'est le Créateur et on découvre le Créateur par ses créatures. Donc, on découvre quelle est la place de l'homme dans l'univers, on découvre que l'homme a une conscience avec une dimension et des potentialités extrêmement importantes. Et donc, rechercher Dieu, ça dépasse cette dimension, on va dire, primaire, qui consiste à percevoir et à analyser son environnement pour aller vers des dimensions psychiques et des dimensions spirituelles, jusqu'au retour, un jour, dans l'unité primordiale.
Quand on voit la création, justement, avec des humains d'une telle violence, jamais contents de ce qu'ils ont, toujours en train d'essayer de tuer l'autre ou prendre sa terre, son bien, là, on se dit quand même, il y a un gros problème. Est-ce qu'on est vraiment sa création ou est-ce qu'on est des espèces d'extraterrestres qui sont arrivés là, des démons?
Au-delà du comportement de l'homme, la création, c'est d'abord la nature, l'homme et l'univers. Donc, que le comportement de l'homme soit désastreux dans certains endroits, certaines périodes, etc., c'est une chose. Mais il n'empêche que la beauté d'un soleil qui se lève ou d'un soleil qui se couche, la beauté d'une fleur dans un jardin, la beauté d'un fruit, etc., la beauté d'un paysage, et j'en passe, d'une musique. C'est ça l'idéal divin qui est dans la création. Maintenant, on est tous différents et on a tous des perceptions, des centres d'intérêt, une analyse et une approche qui nous est personnelle.
Alors comment on s'en approche justement? Si on ne veut pas aller dans une religion, parce qu'on a bien vu que c'est une manipulation, une utilisation du concept pour manipuler les gens, l'opium du peuple quelque part. Donc quand on a conscience de ce concept de création absolue, merveilleuse, comment on fait pour s'en approcher? C'est compliqué. Comment vous faites vous en tant que Rose-Croix?
Donc, dans la démarche rosicrucienne, c'est ce que je commençais à dire à l'instant, là, c'est qu'il y a une progression avec un enseignement par degré. C'est la seule voie initiatique, à ma connaissance, avec aussi l'ordre martiniste traditionnel, à proposer un enseignement. Il y a d'autres voies initiatiques, mais à ma connaissance, l'ordre de la Rose-Croix est la seule à avoir un enseignement structuré et donc que les membres reçoivent par écrit chez eux. Ils peuvent aussi suivre cet enseignement de manière traditionnelle dans des loges, chapitres ou pranavoy, donc des organismes dans lesquels les membres peuvent se rassembler pour des rituels particuliers.
Alors cet enseignement se base sur quoi? Des textes bibliques? Ce qui serait presque absurde.
Alors, justement, je ne vais pas répondre trop brutalement. Il n'y a pas un personnage fondateur au sens messianique du terme. En revanche, l'expérience des sages du passé, tous ceux qui ont cheminé sur ce plan mystique, ont vécu un certain nombre d'expériences et sont encore aujourd'hui amenés à enrichir cet enseignement. On va prendre encore une autre image, je trouve que c'est parfois plus facile. On s'est déplacé à une époque à pied, à une autre époque à cheval, ensuite avec des voitures thermiques, aujourd'hui avec des avions en réaction, etc. Et rien n'a changé entre le point de départ et le point d'arrivée, si ce n'est le moyen d'aller de l'un à l'autre. Et donc, c'est l'expérience et les outils de tous ceux qui sont passés avant qui constituent les enseignements de l'ordre de la Rose-Croix. Donc,
c'est basé sur
l'expérience de ceux qui sont passés avant, mais aussi du membre de l'ordre qui est amené donc à étudier, il y a une partie philosophique, et puis ensuite à expérimenter, il y a une partie pratique.
Oui, parce qu'il faut nettoyer. J'imagine que si ces textes sont si puissants, la Bible, le Coran, le Nouveau Testament, c'est qu'il y a quand même une part de vérité ou quelque chose de très puissant là-dedans.
Voilà.
Comment, il faut faire le tri, quoi, quelque part.
Alors, il y a effectivement plusieurs niveaux de lecture. Donc, le plus communément admis, c'est trois niveaux de lecture dans les textes sacrés, toutes religions confondues. Et donc, il y a un côté allégorique. Le petit Jésus qui est né dans la crèche, c'est mignon. C'est une petite histoire qu'on raconte aux enfants. Et puis, voilà. Il y a un côté philosophique, c'est-à-dire que le plus pauvre parmi les pauvres, qui est né dans une mangeoire, dans une étable ou dans une grotte.
Oui, puis quelque part, ça fait quoi aujourd'hui ?
Il est devenu roi du monde.
C'est des sans-papiers, quelque part.
Bouddha, c'était l'inverse. Donc, Bouddha était prince. Et il est devenu pauvre parmi les pauvres. Et donc là, vous avez une dimension très philosophique. Mais au-delà de ça, il y a un message ésotérique avec une symbolique particulière. C'est-à-dire que le Christ dans la crèche, c'est la quintessence. Il est entouré de quatre personnages, que sont Joseph, Marie, le bœuf et l'âne. Mais cette symbolique, vous allez la retrouver au moment de la crucifixion, puisqu'il y a Jean et trois Marie qui sont au pied de la croix, et Jésus qui est évidemment sur la croix. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez dessiner un œuf, eh bien, vous êtes obligé de faire deux axes. Il y a un axe de symétrie verticale, et ensuite un axe plus petit, horizontal, et qui n'est pas symétrique. Mais la croix latine vous permet de dessiner un œuf. Or, l'œuf primordial, c'est ce que vous retrouvez dans les mythes orphiques, ce qu'on retrouve dans le mythe du dieu Pangu en Chine, et de multiples autres façons dans différentes traditions. Et c'est le point de départ idéal dans lequel tout a maturé, et ensuite tout est venu à la manifestation. Donc vous voyez, il y a une dimension hautement symbolique. Dans la crèche, c'est aussi le creuset de l'alchimiste. C'est l'endroit où il travaille le plomb pour le transformer en or. Donc il y a une dimension ésotérique dans tous les courants religieux, je me répète, et donc il ne faut pas tout rejeter quand on parle de religion. En revanche, ce n'est pas le plus facile à déchiffrer. On
d'accord.
est d'accord là-dessus.
Puis c'est plein de contradictions. Enfin, on voit Jésus, par exemple, qui porte cette parole d'amour où on est tous les enfants de ce Dieu, de ce concept. Donc on aurait tous des possibilités étranges, enfin supérieures, de s'aimer les uns les autres. Puis finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? On le crucifie, on le tue, on le bafoue. Et aujourd'hui encore, je crois qu'on trahit sa parole parce que c'est complètement n'importe quoi, quoi.
Non, mais je vois que vous vous polarisez beaucoup sur le sort de Jésus.
Parce que ça nous concerne. Ça me concerne plus précisément en étant dans une structure un peu judéo-chrétienne, on va dire.
Non, mais bien sûr, on est dans une structure judéo-chrétienne. C'est un héritage dont on ne va pas se défaire facilement, tellement il a marqué notre société. Mais il n'empêche que j'insiste sur ces différents niveaux de lecture et sur le fait qu'il faut dissocier le comportement de l'homme du message philosophique de celui qui a créé ou donné naissance à ces religions. Donc il y a une philosophie de départ qui est transmise par Bouddha, par Mahomet, par Confucius, par Jésus bien sûr, par Moïse. Et ensuite l'homme en a fait quelque chose. Donc l'homme a besoin de créer un système qui permet de garder d'une part, si possible, intacte la tradition primordiale, enseignée par ses grands avatars. Ensuite, il faut permettre que ça perdure, tout ça. Donc, il faut une organisation qui va faire que, au bout de 10 ans, on n'aura pas tout oublié et que ce qui a été montré, ce qui a été enseigné, continue à être montré, continue à être enseigné. Et c'est là que ça se complique, c'est que l'être, on a parlé de cupidité tout à l'heure, il y a des intérêts. Le pape qui est le souverain pontife, donc étymologiquement celui qui fait le lien, qui fait le pont entre l'homme et Dieu, il est devenu un monarque comme les autres avec ses états pontificaux.
On l'appelle le chef de la plus grande secte du monde quand même.
Oui, mais si vous voulez, je ne cherche pas à défendre une religion par rapport à une autre, j'essaie d'expliquer leur raison d'être. Comme vous venez de le faire, qu'il y a eu un certain nombre d'errances. Mais il n'empêche que vous avez un personnage contemporain, il est décédé maintenant, mais en tout cas il est contemporain, c'est Teilhard de Chardin, qui a été un grand mystique, qui a été un philosophe, qui a été un scientifique, et il a eu le grand tort d'être jésuite, parce que les jésuites lui ont empêché de continuer à transmettre le message qui était hérité de la tradition chrétienne, mais qui était aussi un message original, explicatif de ce qu'il fallait rechercher. Il avait dit, je crois, à Henri de Montfrède, qui a été un écrivain, qui a été aussi un explorateur, il lui avait dit qu'on était très très loin de la spiritualité quand on parlait de religiosité. Et pourtant, il était jésuite, pourtant, et je crois que, je ne sais pas s'il n'est pas décédé en 1954. Donc, il avait dû, on lui avait proposé la chaire de la. Une chaire à l'Académie des sciences, je crois, à Paris. Et les dirigeants jésuites lui ont interdit de prendre ce poste et il a émigré aux États-Unis. Pour dire que le comportement de la religion est extrêmement choquant, encore aujourd'hui, et pourtant, la religion a été le moyen pour un personnage comme Teilhard de Chardin d'atteindre un haut niveau de spiritualité. Donc, vous voyez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Non, 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 c'est sûr. Mais bon, si je comprends bien ce que vous dites aujourd'hui, si on entend quelqu'un vous dire qu'il vous parle au nom de Dieu, faut s'enfuir. Faut rejeter quand même tout ce qui est religion qui me prétend parler à notre place et s'approcher soi-même de cette source, de ce concept, comme vous dites. C'est quelque chose de très
Non, mais
personnel,
bien
finalement,
sûr,
pour être sûr qu'on
il y
n'est
a
pas
des parties où je ne
manipulé.
peux pas vous contredire. J'ai rencontré un jour un monsieur qui faisait partie de ce qui est considéré comme étant une secte en France. Pas aux États-Unis, mais en France. Et donc, le dirigeant de la secte en question avait vu Dieu, avait parlé à Dieu, etc. Et mon interlocuteur me disait, mais vous vous rendez compte de la chance qu'il a eue? Donc, vous avez des personnes qui gobent tout ce qu'on leur dit sans aucune réflexion. Ce qui est complètement à l'opposé des enseignements de l'ordre de la Rose-Croix, puisque dès le début des enseignements de l'ordre de la Rose-Croix, il est demandé à chacun d'être un vivant point d'interrogation. Donc de ne pas accepter ce qui est proposé sans l'avoir mûri, sans l'avoir réfléchi et surtout sans l'avoir expérimenté. Ce
D'accord,
qui est
d'autant plus que
complètement à l'opposé
tous les hommes saints,
de
entre
tout ce
guillemets,
que...
dont vous parlez,
Pardon?
Bouddha, je dis d'autant plus que les gens, les hommes dont vous parlez, Bouddha, Jésus, les inspirés, je ne sais pas comment on peut les appeler, même Mahomet, ont toujours apparemment tendu à dire que c'était nous-mêmes, quoi, que c'était à chaque homme. Je sais que
Et oui, mais
bon.
à partir du moment où
Et qu'il ne fallait
Dieu est
pas
le
suivre une
créateur
bannière, quoi, voilà.
et qu'il ne peut pas y avoir au commencement autre chose que Dieu, sinon Dieu n'est plus Dieu, on définit Dieu positivement et négativement. On arrive parfois plus facilement à dire ce qu'il n'est pas qu'à dire ce qu'il est. Mais donc, si la création émane d'une intelligence supérieure, d'une pensée première, rien après ne peut être extérieur à cette pensée première. C'est comme si on faisait une analyse génétique d'un enfant et qu'on trouve des gènes qui ne soient pas ceux de ses parents. C'est pas possible. Il y a dans le patrimoine génétique de chacun l'héritage transmis par les générations précédentes. Et bien de la même façon, aucun élément de la création ne peut être extérieur au créateur. Et c'est en étudiant la création dans ses différentes formes, pas que physique, donc c'est en étudiant la création qu'on découvre le créateur. Et Mahomet n'a jamais autorisé à tuer. C'est vrai que dans le judaïsme, c'est beaucoup plus ambigu. Il y a des passages extrêmement violents. Mais c'est une lecture qui demande à être approfondie. Et dans le christianisme, évidemment, le message est celui de l'amour. Dans le bouddhisme, le message est celui de la sagesse. Et donc, cette sagesse, cet amour, j'insiste, ce sont des complémentarités, ces différents messages. Il ne faut pas en bannir un pour prendre l'autre. Il faut. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour révéler. Et donc, il y a eu une époque pendant laquelle les religions disparaissaient, donnaient la place, cédaient la place à une nouvelle religion. Et puis, à partir du christianisme, il n'y a pas eu ce coup d'arrêt, il y a eu cet enrichissement de l'héritage précédent. Mais on peut faire un parallèle aussi avec le bouddhisme, qui repose sur l'héritage hindou. À part que l'hindouisme est plus important en nombre, en tout cas de pratiquants, que le bouddhisme, alors que le christianisme est plus important en nombre de pratiquants que le judaïsme. Donc ça, c'est mathématique, c'est hors sujet. Mais il n'empêche que s'appuyer sur l'héritage antérieur, ça veut dire reconnaître l'importance de ces différents paliers pour cheminer vers le divin.
D'accord.
Mais à côté des différentes religions, il y a toujours eu des voies initiatiques. C'est-à-dire que même sans religion, celui qui avait une aspiration profonde était amené à rencontrer aussi bien à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, dans l'Égypte ancienne, et donc dans des ashrams hindous, était amené à, donc, à accéder à ce cheminement intérieur.
D'accord.
Les religions n'ont pas le monopole de la spiritualité.
Ils n'ont pas le monopole du cœur, comme dirait quelqu'un qui est parti il y a quelques temps.
Oui, j'ai bien pensé, j'ai pas osé
Je vais
dire.
Devoir interrompre notre discussion, parce qu'après, on va pouvoir parler 6 heures. Hein. Il faudrait qu'on refasse d'autres émissions là, autour de Dieu.
Il n'y a pas de problème.
Je voulais conclure, parce que vous disiez un concept de création hein, avec des scientifiques qui, eux, ne sont pas du tout religieux, comme Einstein, qui dit « Dieu ne joue pas au dé », sous-entendu l'univers et la création n'a rien... du hasard, n'est pas dû au hasard, ou les frères Bogdanov qui ont écrit aussi la formule de Dieu ou le visage de Dieu en parlant d'étoiles, de constellations. Donc même les scientifiques commencent petit à petit à se dire il y a quand même quelque chose d'extraordinaire.
Mais si vous voulez, on fera un jour une conférence avec un scientifique
oui.
qui fera le parallèle entre science et religion ou spiritualité.
D'accord. Einstein, on aura
ça
du
sera
mal.
Mais... un autre angle.
Ou un autre. En tous les cas, Philippe Sicard, merci beaucoup. Quelques jours avant Noël, de parler de Dieu, tout ça, c'est quand même. On est dans l'actualité, quand même, l'air de rien.
Complètement, oui. Mm. Mais vous savez, ce sont des épiphénomènes qui ont donné l'impression que par moments, on se détachait de Dieu. Mais depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours interrogé sur cette intelligence suprême qu'on appelle Dieu. Il lui a donné différentes formes, mais il n'a jamais arrêté d'y réfléchir. On a tendance à se poser des questions sur ce que font les autres, mais intérieurement, chacun seul avec lui-même, il s'interroge quand même, ne serait-ce que parce qu'il se doute bien qu'un jour tout ça, ça va s'arrêter.
Ah oui.
Et il se demande pourquoi certaines choses lui arrivent, et il se demande ce qui va lui arriver le jour où tout va s'arrêter.
Bon, bah écoutez,
donc il y a une interrogation permanente qu'il faut accepter de regarder en face chacun individuellement.
D'accord, bah écoutez, on va laisser nos auditeurs réfléchir sur ces belles paroles, parce qu'il y a de la réflexion là, on peut réfléchir jusqu'à l'année prochaine. Hein. Et puis nous, on se donne rendez-vous bientôt, peut-être en studio pour parler plus longuement, parce qu'avec Skype, c'est vrai que le son, tout ça, c'est quand même pas super agréable de faire des longues discussions.
Et en plus, je n'ai pas d'interlocuteur, j'ai un écran noir, donc c'est peut-être... un peu désagréable pour ceux qui vont voir la vidéo après.
Bah, c'est un
désolé.
Petit peu comme la voix de Dieu, on ne voit jamais son visage. Hein.
Voilà.
C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, M. Sicard. À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.